Bonsoir, je suis Philippe Fabry, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2026. C'est le premier bulletin du mois, donc c'est celui qui est en accès gratuit. Je rappelle qu'il y en a un par semaine et que les autres sont accessibles à nos très chers souscripteurs. Nous commençons avec la grande affaire qui agite bien sûr toujours le Moyen-Orient, qui est la guerre, hein, qui dominera un petit peu ce bulletin, même si sur le détail, l'analyse, je reviendrai là-dessus dans mon émission de cette semaine, que je ferai sans doute vendredi prochain, dans laquelle j'étendrai un petit peu l'analyse que j'ai fait très très rapidement lors de mon passage chez Mathieu Bock-Côté et que j'ai dû faire en 2 minutes. Là, j'essaierai de vraiment prendre le temps de vous expliquer, à mon avis, la situation stratégique de l'Iran et surtout le rôle que prend cette offensive américaine depuis un mois dans une forme de guerre plus longue. Nous commençons donc avec une première information, un article rapportant les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui affirme que la seule solution à long terme face à la crise du détroit d'Ormuz consisterait à réacheminer les pipelines énergétiques vers l'ouest via l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël, jusqu'au port israélien, notamment Haïfa, dans le cadre du projet IMEC, les chemins de fer de la paix. Il mentionne, l'existence de solutions militaires sous égide américaine au conflit, avec la réouverture du détroit d'Ormuz. Les rivalités régionales existent sur un éventuel projet de pipeline donc, qui irait jusqu'en Israël, la Turquie via son projet Route du Développement et la Syrie sous Ahmed al-Sharaa avec la possibilité de reconstruction d'un pipeline. Il en avait été question à l'époque d'Al-Assad également, avec un corridor corridor alternatif à celui proposé par Israël qui relierait le Golfe à l'Europe et qui pour le coup contournerait donc Israël. L'Arabie Saoudite, quant à elle, maximise déjà l'utilisation de son oléoduc est-ouest vers la mer Rouge et vers le port de Yanbu sur la mer Rouge, mais celui-ci a été frappé également par l'Iran, qui veut montrer qu'on ne le contournera pas si facilement. Et des incertitudes saoudiennes persistent de toute façon sur la participation éventuelle de l'Arabie au projet porté par Israël, notamment à cause des avancées politiques sur la question de Gaza et des Palestiniens. Et il y a également des pressions qui existent pour inclure des ports libanais. Donc on voit qu'il y a une grosse rivalité dans la région autour de cette idée de contournement finalement des deux détroits, Bab-el-Mandeb et Hormuz, puisque une partie du pétrole qui sort par Hormuz repasse ensuite par Bab-el-Mandeb pour monter vers Suez. Et donc les Israéliens tentent notamment de pousser, mais ce ne sont pas les seuls, pour favoriser leur propre projet d'oléoduc. Le président syrien Ahmed al-Sharaa, lors d'une visite au Royaume-Uni qui a eu lieu cette semaine, a déclaré que son gouvernement avait tenté de normaliser les relations avec Israël, mais sans succès. C'est ce qu'ont rapporté les médias israéliens ce mardi. Le président Sharaa a tenu ses propos lors d'un événement organisé par le Chatham House Royal Institute of International Affairs à Londres. Il a indiqué, je cite, « Nous avons tenté un dialogue et des négociations directes et indirectes. Nous sommes parvenus à des conclusions positives, mais Israël a changé d'avis à la dernière minute. » Al-Sharaa a également déclaré que l'intervention iranienne en Syrie avait permis au précédent régime de déraciner le peuple syrien et ajouté que la Syrie n'avait aucun problème avec l'Iran à Téhéran, qu'ils avaient un problème avec l'Iran à Damas. L'Iran a un problème car il tente de développer des missiles balistiques et des bombes nucléaires et d'influencer d'autres pays, a-t-il également déclaré, et ajouté que la Syrie préférait la négociation plutôt qu'aux guerres qui entraîneraient des risques supplémentaires. Mais surtout, il a souligné que tant que la Syrie ne serait attaquée par aucune partie, elle resterait en dehors de ce conflit. Et en ce qui concerne le Hezbollah, il a réaffirmé l'engagement de la Syrie à défendre ses frontières et empêcher le trafic d'armes, donc à être l'autoroute de l'Iran en direction du Hezbollah. Et il a ajouté que la Syrie avait déjà payé un lourd tribut en raison de la présence du Hezbollah au Liban, à laquelle on sent donc qu'il est hostile. Sans surprise évidemment, puisque représentant la partie sunnite de la Syrie. Il a donc dit, disais-je, qu'il ne s'engagerait pas dans une guerre régionale, à moins que la Syrie ne soit directement attaquée. Sur les combattants, on apprend dans l'article de l'Humanité, ce qui est intéressant, que des combattants kurdes iraniens du parti Komala, et qui sont basés dans les montagnes du Kurdistan irakien, près de la frontière iranienne, se préparaient, malgré tout, malgré les hésitations qu'il y a eu qui ont été mentionnées, se préparaient à franchir la frontière pour aller combattre en Iran, armés et mobilisés par milliers. Le journaliste qui a rédigé l'article indique qu'ils sont très déterminés, et cela dans le contexte des tensions accrues naturellement, puisqu'il y a eu des attaques iraniennes récentes par missiles et drones sur leur camp en Irak en mars de ce mois-ci, et des frappes de milices chiites irakiennes, notamment la milice Hashd al-Shaabi, contre des positions américaines ou occidentales, et bien sûr la mort d'un soldat français en Offrion lors d'une attaque de drone, vous vous en souviendrez. Les combattants sont évidemment conscients du risque d'être instrumentalisés par les rivalités régionales impliquant l'Iran, les États-Unis, Israël et d'autres acteurs. Ils ont conscience qu'il y a toujours le risque d'être abandonnés après avoir servi les desseins de leurs alliés, mais vraisemblablement qu'ils se disent également que ça reste leur seule chance de pouvoir intervenir. Donald Trump a déclaré quant à lui que les États-Unis quitteront l'Iran très bientôt, dans 2 ou 3 semaines, ce jour-ci, en affirmant « Tout ce que j'ai à faire, c'est partir de l'Iran, nous le ferons très bientôt et ils dégringoleront ». Il a ajouté que les États-Unis n'auraient plus rien à voir désormais avec le détroit d'Hormuz et que les autres pays comme la France devraient s'y débrouiller seuls. Naturellement, ça a énormément fait parler les médias aujourd'hui qui se sont dit « Est-ce que Donald Trump va partir ?» Il faut toujours être méfiant avec celui de Donald Trump. Il doit faire des déclarations que je n'ai pas au moment où j'enregistre, mais qui auront été mentionnées lorsque le bulletin sortira, vraisemblablement. Donc, il sera un petit peu en retard sur cette question-là. Je me demande ce qu'il va annoncer, très honnêtement. Je ne pense pas qu'il va annoncer des troupes au sol, parce que s'il envoie des troupes au sol, je ne pense pas qu'il le dira avant. Donc, je pense que si jamais il parlait cette nuit des troupes au sol, ben, peut-être qu'au moment où j'enregistre, elles sont déjà en train d'être déployées, ce que je ne crois pas. Ça peut être éventuellement pour parler d'autres sujets, ou peut-être tout simplement pour brouiller les pistes, faire une espèce de nothing burger, et histoire de couvrir toujours plus, parce qu'il y a toujours ce travail de Donald Trump, une éventuelle action militaire de la part des troupes qu'il a déployées et qui ne seront pas engagées tout de suite. J'ajoute que par ailleurs, dans la journée, il y a eu cette information importante, après avoir donc dit que les États-Unis quitteraient dans 2 ou 3 semaines, ce qui serait un moyen de tenir son calendrier, il a indiqué que le président du nouveau régime, bien moins radicalisé et bien plus intelligent que ses prédécesseurs, a juste demandé aux États-Unis un cessez-le-feu. Il a dit nous le considérerons cette option quand le détroit d'Hormuz sera ouvert et libre. Jusque-là, nous continuerons de frapper l'Iran, éventuellement jusqu'à l'âge de pierre. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a naturellement des hésitations, tout le monde s'est demandé s'il bluffait. Moi, je suis convaincu que c'est de Pezeshkian qui parle, ça paraît assez logique, et je suis de plus en plus convaincu que c'est la stratégie américaine, l'idée de donner le pouvoir, en fait, au seul type démocratiquement élu, je vous en avais déjà parlé, qui est Pezeshkian. Sont sortis d'ailleurs par une chaîne israélienne, mais ça semble-t-il était considéré très vraisemblable par un certain nombre de commentateurs, des échanges ou la retranscription d'un échange entre Pezeshkian précisément et un des chefs du corps des gardes de la Révolution, dans lequel Pezeshkian dit qu'il faut négocier parce que dans 3 semaines l'économie de l'Iran s'effondrera, et donc il veut être impliqué dans les négociations. Et le type des gardiens de la Révolution lui dit qu'il n'est pas question de lui permettre d'être impliqué, justement parce qu'il céderait absolument sur tout. Et donc à mon sens, mais à la limite je vous le dis depuis des mois, donc je suis cohérent avec ce qui m'a dit les centrales, mais je vous en parlerai un petit peu plus vendredi prochain, c'est qu'il y a cette idée-là, on sait que Macron aussi a déjà parlé avec Pezeshkian, il y a cette rupture dans le pouvoir iranien, et clairement Pezeshkian peut être le Helsin de la situation. Et donc, j'ai trouvé ce message naturellement de Donald Trump immédiatement très intéressant. Bien sûr, il y a toujours l'hypothèse que mentionnent certains que ça puisse être un bluff, etc., une tentative divisée. Mais je pense que c'est quand même très cohérent avec d'autres informations qu'on a eues ces temps-ci, à la limite même depuis le début de l'intervention, de la part de Pezeshkian, qui ce soir d'ailleurs a fait une déclaration en redonnant des gages finalement un peu à son régime, en disant que c'était les Américains les agresseurs, etc. Mais je pense qu'en lisant entre les lignes, on peut voir qu'il y a une ouverture de discussion avec les Américains. Et je pense que la chance que ce conflit se termine vite avec un renversement des gardiens de la Révolution et un retour à un régime civil, et sans que ça ne déborde et qu'il y ait des frappes sur des installations civiles qui seraient très contre-productives, à mon avis, de la part des Américains, c'est la meilleure option. Voilà. Mais à ce stade, difficile de vous dire plus que ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux. En ce qui concerne les autres fronts de cette guerre, les rebelles houthis du Yémen ont officiellement déclaré à la guerre à Israël le 28 mars et revendiqué deux séries d'attaques, des missiles balistiques et des drones, des missiles de croisière qui ont visé des sites militaires sensibles et des objectifs vitaux, ce qu'ont dit les Houthis, en Israël. C'est leur première intervention directe dans le conflit actuel, en soutien à l'Iran dont ils sont un allié proche, mais en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas prendre trop gravement cette intervention des Houthis. Pour moi, il y a une chose qui est assez claire dans la façon dont les Houthis gèrent le conflit depuis un mois. Ils ont d'abord passé plusieurs semaines à tenir des propos très vigoureux mais sans bouger. Et au moment de se mettre à agir, ils envoient des missiles directement sur Israël, mais ils n'ont pas tenté de perturber à nouveau le trafic autour de Bab el-Mandeb. Parce que je pense qu'ils savent que si jamais ils frappent le détroit de Bab el-Mandeb, ils vont se prendre à nouveau des pluies de bombes de la part des Américains, alors que s'ils frappent uniquement Israël, ils ne se prendront que quelques frappes de la part d'Israël. Et il faut se souvenir que les frappes combinées israélo-américaines il y a quelques mois ont quand même tué des très hauts responsables, dont le Premier ministre. Donc ils ne sont pas particulièrement suicidaires. Donc pour l'instant en tout cas, je pense qu'ils vont en rester là, comme d'ailleurs a fait le Hezbollah pendant un petit moment, à l'époque de Nasrallah, avant que Nasrallah soit tué, c'est-à-dire faire des frappes un petit peu symboliques pour montrer leur appui et leur participation, mais sans aller jusqu'au bout de ce qu'ils pourraient faire, parce que ben malgré tout, ils n'ont pas envie non plus d'y rester, mais que ça fait partie finalement de leur nature et d'une nécessité politique de ne pas rien faire non plus. Et des frappes, en ce qui concerne le Liban, des frappes précisément, des frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 7 personnes à Beyrouth le 1er avril 2026, 5 dans le quartier de Jenna, dans le sud de la capitale, et 2 à Kaldé. L'armée israélienne a revendiqué la neutralisation d'un commandant senior du Hezbollah et d'un autre membre du groupe. Des combats et des frappes intenses se poursuivent toujours au sud du Liban, où le Hezbollah a tiré plus de 40 roquettes sur le nord d'Israël. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé qu'après la fin des opérations, Tsahal occupera de vastes zones du sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, soit à environ 30 km de la frontière, pour établir une zone de sécurité. Le retour des déplacés libanais y sera empêché tant que la sécurité du nord d'Israël ne sera pas garantie et des habitations frontalières seront détruites. Le bilan au Liban depuis le début de l'implication du Hezbollah dépasse 1 200 morts et plus d'un million de déplacés. Et il y a eu des tensions également avec des casques bleus, avec des soldats français notamment, qui ont été menacés. Ce qui pose naturellement problème. La situation est compliquée. L'armée libanaise aurait dû elle-même désarmer le Hezbollah depuis plus d'un an maintenant. Ça n'a pas été fait parce que l'armée libanaise n'était pas assez forte. Si vous voulez mon avis personnel sur la question, je pense que on n'a pas assez aidé l'armée libanaise à se renforcer face au Hezbollah justement dans cette situation. Et donc avec la reprise des combats naturellement du Hezbollah qui a décidé de prendre le parti de l'Iran, eh bien ça amène à malheureusement ces opérations israéliennes qui envisagent des mesures qui sont extrêmes, hein, l'occupation avec l'empêchement au retour des Libanais. Malheureusement, ça découle en partie du comportement assez jusqu'au boutiste finalement du Hezbollah dans cette guerre. Le ministre israélien de la Défense, donc je disais, Israël Katz, avait précisé que donc Des villages frontaliers seraient détruits donc sur le modèle de certaines zones à Gaza. Voilà, c'est c'est-à-dire en fait l'idée c'est qu'il s'agit de effectivement de grignoter du territoire. On a même vu circuler quelques vidéos d'Israéliens de type du même type de colons qu'on voit en Cisjordanie qui ont mentionné que ils envisageaient déjà d'aller s'installer également au Liban. Ce qui là, à mon avis, est un moyen, enfin, serait extrêmement dangereux parce que ça pourrirait encore plus la situation ultérieurement. Et dans le cadre de la constitution d'un koinon, je pense que l'idée c'est plutôt de se faire le protecteur éventuellement des zones sur lesquelles on est en son emprise, pas d'en vider la population et de la coloniser à la place, parce qu'à ce moment-là, je pense que ça crée plus de problèmes que c'est pas vraiment un koinon, quoi, pour le coup. Voilà. On va quitter désormais le Moyen-Orient, pas tout à fait d'ailleurs, puisque c'est pour parler de l'Ukraine, mais ça c'est un accord important. L'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord de coopération en matière de défense, notamment, vous savez, pour la fourniture de drones anti-drones, pour lesquels l'Ukraine désormais a un savoir-faire extraordinaire, très en avance sur beaucoup de pays, puisqu'avec des petites unités très peu chères qui permettent de gagner la guerre d'attrition contre les Shahed. Et donc cet accord a été signé assez rapide finalement, hein, en un mois depuis le début du conflit. L'annonce a été faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky après une rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. L'objectif est de soutenir les pays du Golfe, donc qui sont ciblés par les attaques de drones, notamment en matière de défense aérienne. L'Ukraine envoie donc des experts dans le Golfe pour aider à lutter contre les drones, notamment, puisque ce sont les mêmes technologies, en plus qu'en pour les Russes, puisque les Russes ont perfectionné les Shahed, et inversement, semble-t-il, partagent leur technologie avec les Iraniens pour qu'eux mêmes puissent les perfectionner avec le retour des combats en Ukraine. On descend en Afrique où l'Afrique du Sud, le 26 mars 2026 a annoncé qu'elle ne serait pas invitée au sommet du G7 organisé par la France à Évian les 15 et 17 juin 2026. Cette décision fait suite à des pressions américaines exercées par l'administration de Trump qui accuse l'Afrique du Sud de persécuter les fermiers blancs et de tolérer des violences raciales. Le porte-parole de la présidence sud-africaine a confirmé que l'invitation initialement envisagée pour le président Cyril Ramaphosa a été retirée. La France a quant à elle affirmé qu'il s'agissait d'un choix souverain et non d'une concession aux pressions américaines. Mais elle n'a pas donné le motif de cette décision. Le 27 mars 2026, la junte militaire au pouvoir au Niger a annoncé la création prochaine d'organisations territoriales d'autodéfense pour soutenir l'armée contre le djihadisme qui est endémique, vous le savez, j'en parle régulièrement. Ces groupes seront composés de volontaires, des anciens policiers, des gendarmes, des militaires et des habitants des zones touchées et devront bénéficier d'une formation à l'armement, d'équipements militaires ainsi que d'avantages en nature et en espèces. Leurs missions doivent inclure la sensibilisation, le renseignement et l'autodéfense locale. Tout ceci vise à encadrer les milices villageoises qui existent déjà, elles se sont formées spontanément, mais pour s'assurer que cela reste dans la main de l'État, et ça s'inspire notamment du modèle burkinabé des volontaires pour la défense de la patrie. République démocratique du Congo et Rwanda, 4 mois après la signature des accords de Washington, vous savez je fais régulièrement des points sur cette situation, donc c'était le 4 décembre 2025, le processus de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est toujours à l'épreuve du terrain et montre des signes de stagnation. J'ai pas l'impression de vous dire la même chose à chaque fois. L'accord avait été célébré par Donald Trump naturellement, en présence de Félix Tshisekedi et Paul Kagame, et visait à mettre fin aux tensions dans la région, mais les avancées concrètes sont toujours limitées 4 mois après. Les violences et controverses persistent sur le terrain, avec une impasse qui fragilise l'avenir du processus. Le Rwanda renforce son influence et sa stabilité intérieure, tandis que la République démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires et politique, toujours, hein, je rappelle, le Rwanda, on est déjà au stade de l'impérialisme revanchard avec Kagame, alors que la République démocratique du Congo, c'est un grand État qui a été constitué avec le départ des puissances coloniales. Cette puissance, ce Congo est gigantesque. Il comprend énormément d'ethnies différentes qui n'avaient jamais historiquement été réunies dans des entités politiques. Donc, elle est à un stade très précoce de sa construction nationale et avec toutes les fragilités que ça implique. En Russie, les coupures d'Internet organisées par les autorités au nom de la sécurité se multiplient et deviennent désormais quotidiennes depuis plusieurs semaines, notamment pour contrer les drones ukrainiens. Dans certains quartiers du centre de Moscou, l'Internet mobile est coupé depuis plus de 3 semaines, ce qui oblige les habitants à revenir à des pratiques pré-téléphone portable. Il se murmure d'ailleurs que Vladimir Poutine aurait été terrifié par l'idée que Khamenei a été tué grâce à un piratage depuis plusieurs années des réseaux de caméras de Téhéran qui auraient permis au Mossad de pister Khamenei. Et donc, ce serait une des raisons qui aurait poussé Vladimir Poutine à vouloir bloquer tout ça rapidement, même si, semble-t-il, le processus était engagé précédemment. De ce fait-là, les gens reviennent au paiement en liquide, avec des perturbations dans les transports, des perturbations dans les paiements, des bibliothèques qui n'ont pas de connexion, les gens qui refont leur liste de courses à la main sur des papiers, etc. À tous les niveaux de ce que c'était le monde pré-internet. La colère monte, semble-t-il, parmi la population, avec des expressions comme « goulagisation numérique » et des appels à manifester sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Intérieur a averti à ce propos que toute tentative de rassemblement serait immédiatement réprimée et ses organisateurs arrêtés. À Krasnodar, une manifestation initialement autorisée a ensuite été interdite et l'État renforce le contrôle numérique avec blocage ou restriction de WhatsApp, Telegram et des médias indépendants, la lutte contre les VPN et le développement d'un Internet souverain en vase clos, sur le modèle de ce qui se fait en Chine. Par ailleurs, il semble que tout ceci soit associé au fait que on commence à voir une nouvelle mobilisation à bas bruit, avec des consignes qui seraient envoyées à certaines entreprises, mais aussi à des universités, etc., qui demanderaient de fournir 1, 2, 3 individus sur un effectif de 200-300 personnes, ce qui, à la fin, devrait pouvoir faire des effectifs considérables, mais donc la disparition de l'accès à Internet devrait permettre de faire passer tout cela en évitant que ça fasse trop de vagues. Dans le même temps, lors d'une réunion à huis clos au Kremlin d'après les Échos, Vladimir Poutine a demandé aux oligarques de contribuer financièrement à l'effort de guerre en Ukraine en affirmant « Nous allons continuer le combat, nous irons jusqu'aux frontières du Donbass ». Igor Sechin, le patron de Rosneft, a été chargé de coordonner ses contributions. Selon The Bell, certains oligarques ont promis près de 100 milliards de roubles, environ 1,4 milliard d'euros, tandis que d'autres ont soutenu l'idée. Le Kremlin présente ses vertements comme volontaires et issus d'une initiative des participants eux-mêmes, en soulignant le devoir des oligarques dont les fortunes sont liées à l'État depuis les années 90. Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence, a nié que Poutine ait directement demandé ses contributions tout en se félicitant de l'initiative. Le contexte est celui d'un budget russe vidé par la guerre en Ukraine. Bien que la hausse des prix du pétrole apporte un soutien temporaire, il faut bien se rendre compte qu'en fait c'est très très mesuré comme soutien, puisque les Ukrainiens ces jours-ci ont fait de telles frappes sur les raffineries que les Russes ont à nouveau interdit l'exportation limiter les exportations de pétrole et donc ne pourront pas tellement profiter de l'augmentation des prix. En Serbie, une information qui m'a paru importante, parce que vous savez que le président Vučić était un petit peu en mauvaise position depuis quelques mois avec la catastrophe de la gare de Novi Sad qui a entraîné des manifestations montres pendant très longtemps, notamment d'étudiants en Serbie. Donc on voulait y voir peut-être la chute prochaine de Vučić. Eh bien, Vučić a proclamé la victoire de son parti, le Parti progressiste serbe, la SNS, aux élections municipales partielles organisées dans 10 localités, principalement en Serbie centrale, et qui représentent seulement certes 3,8% des électeurs, mais il a qualifié le résultat de 10 à 0, pardon, pour évoquer un résultat sportif, contre le mouvement étudiant et l'opposition, avec des scores du SNS variant de 49 à 72%, et une participation surtout élevée, entre 53 et 78%. Donc c'est une victoire qui semble montrer que Vučić a encore le pays bien en main après cette année de crise. Et le même 29 mars 2006, deux drones se sont écrasés dans le sud-est de la Finlande, près de Kouvola. Selon le ministère de la Défense finlandais, il s'agit d'une violation présumée du territoire. Des objets volant à basse altitude et faible vitesse ont été observés en zone maritime et terrestre. L'armée a déployé un chasseur pour identification. Le Premier ministre Petteri Orpo a indiqué que ces drones sont très probablement ukrainiens, bien que l'enquête soit en cours. Et ça serait pas très surprenant parce que de la même manière, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, il y a eu des attaques ukrainiennes sur les ports pétroliers russes de Primorsk et Oust-Louga en mer Baltique, qui ont vu un certain nombre de drones s'égarer et dont un est allé frapper notamment une cheminée de centrale électrique en Estonie. Donc en venant du territoire russe, donc on a à la base pensé à des drones russes, mais en réalité semble-t-il ce sont des drones qui longent la frontière balte pour éviter la défense antiaérienne russe. Et tout ceci a fait que ils se sont égarés en route. Et les Russes commencent à souligner que en gros les pays baltes sont en danger et que si leur espace aérien est utilisé pour attaquer le territoire russe, c'est un problème. Donc ça vient s'ajouter à l'idée de République populaire de Narva, etc., qui font peser actuellement un stress important autour des pays baltes. Et selon les calculs de Reuters, les opérations dont j'ai parlé sur les raffineries, les ports pétroliers d'Oust-Louga et de Primorsk et de Novorossiysk aussi sur la mer Noire, ces attaques, donc notamment dans la nuit du 30 au 31 mars 2026, auraient suspendu au moins 40% des capacités russes d'exportation de brutin. Donc je vous disais, très difficile du coup pour les Russes de profiter de la hausse des prix du pétrole en ce moment. On va en Asie où le président Xi Jinping a invité Chen Liwen, président du Kuomintang, principal parti d'opposition à Taïwan, à se rendre en Chine continentale avec une délégation du 7 au 12 avril 2026. L'invitation a été acceptée et confirmée par les médias d'État chinois ainsi que par le Kuomintang, qui prend traditionnellement des relations plus étroites et des échanges accrus avec Pékin. Dans un communiqué, Chen Liwen a exprimé l'espoir que les deux rives du détroit unissent leurs efforts, et donc ceci fait partie de la stratégie chinoise pour avoir des alliés sur Taïwan, en alternant avec la séduction avec l'opposition, et la pression avec ses régulières démonstrations de force autour de Taïwan. Le Vietnam a temporairement supprimé une taxe environnementale sur les carburants pour atténuer l'impact de la hausse des prix liée à la guerre en Iran. Cette mesure, en vigueur du 26 mars au 15 avril prochain, a entraîné une baisse importante du prix à la pompe, moins 26,17% pour l'essence sans plomb, moins 15% pour le gazole selon le ministère du Commerce. Comme quoi le Vietnam peut le faire, mais nous on n'y arrive pas. Malgré cette chute, les prix restent supérieurs à ceux observés avant le conflit. Le gouvernement multiplie les interventions pour stabiliser le marché, suppression de droits de douane sur les importations de produits pétroliers, recherche de nouveaux fournisseurs et utilisation d'un fonds de stabilisation de 200 milliards de dollars. Hanoï prévoit également d'accélérer la transition vers l'essence mélangée à l'éthanol pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Même problème du côté des Philippines, qui font face à une grave crise énergétique déclenchée par la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz toujours, par lequel 95% des importations de pétrole philippines transitent. En un mois, le prix de l'essence a doublé à Manille, plus de 400 stations-service ont fermé sur 14 000, alors c'est pas une majorité, mais enfin ça fait un certain nombre. Le président Ferdinand Marcos Jr. a décrété l'état d'urgence nationale pour une durée maximale d'un an. Cela permet au gouvernement de sanctionner le stockage spéculatif, d'acheter directement des produits pétroliers pour les secteurs prioritaires et de prendre des mesures exceptionnelles pour éviter la paralysie de l'archipel. Le gouvernement a sollicité l'aide du Japon et de la Corée du Sud pour leurs réserves stratégiques et a repris des importations de pétrole russe, puisque malgré tout ils arrivent à en prendre. L'électricité est majoritairement produite au charbon dans l'archipel et donc n'est pas directement menacée. En revanche, on voit des routes désertes car les habitants limitent leurs déplacements en raison du coût élevé de l'essence. Et enfin, à propos des Philippines, les Philippines et la France, le 26 mars dernier, ont signé à Paris un accord militaire de type Status of Visiting Forces Agreement, le premier du genre entre Manille et un pays européen. Accord qui permet aux forces armées des deux pays de mener des exercices conjoints et des activités de coopération sur le territoire l'un de l'autre. Il facilite notamment la participation des forces terrestres françaises aux exercices. Qui était auparavant les forces françaises étaient limitées au rôle d'observateurs dans les exercices avec les États-Unis. La marine française a déjà participé à des manœuvres en mer de Chine méridionale. L'accord doit encore être ratifié par les parlements des deux pays. Il intervient dans le contexte naturellement des tensions accrues avec la Chine en mer de Chine méridionale. Le jour même de la signature, l'armée philippine a dénoncé une manœuvre dangereuse et non professionnelle d'un navire de la marine chinoise près de l'île de Pagasa, à environ 450 km de Palawan, qui s'est rapproché à moins de 10 mètres d'un navire philippin. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que tout ceci vous aura intéressé. Encore une fois, sur la question de l'Iran, et avec plus de profondeur dans l'analyse, j'y reviendrai lors de mon live hebdomadaire qui sera vraisemblablement vendredi soir, et probablement que ça sera l'occasion notamment de commenter ce qu'aura dit Donald Trump entre temps, et probablement de nouveaux rebondissements puisqu'il y en a très régulièrement, si ce n'est quotidiennement. À bientôt pour de nouveaux formats. Je vous rappelle que c'était le premier bulletin du mois, donc celui qui a un accès gratuit mais qui en a toutes les semaines et qui sont disponibles. Je vous dis à bientôt, donc, et d'ici là, vous laissez pas faire.